Bienvenue à l'Instant Nature, une émission proposée tous les 15 jours par l'Association pour la sauvegarde de l'environnement Caroli Pontois. Cette émission est animée par Xavier.
Comme ça fait du bien d'entendre les petits oiseaux sur l'antenne de Radio Puisalène. Excellent après-midi, c'est Puisalène que vous écoutez sur les trois fréquences et bien sûr l'Instant Nature avec Xavier. Bonjour Xavier.
Bonjour Edwige, bonjour à toutes et à tous et voici notre 14e émission de la saison 2024-2025. Et on va commencer par une humeur qui nous changera un peu du mégot. On va parler du gaspillage alimentaire. Près de 40% de nos productions d'aliments terminent à la poubelle. Et alors qu'une partie des habitants de la planète meurt encore de faim. Alors, il y a des tas de gens qui s'en préoccupent. Et il y a notamment des associations qui organisent des ventes de fruits et légumes qui ne répondent pas aux normes exigées par les grandes surfaces. Une pomme un peu ridée, une carotte de travers, eh ben, c'est pas vendable, soi-disant. Alors, dans les Yvelines, ils organisent des paniers de légumes en accord avec les producteurs. C'est des productions bio, d'ailleurs. Et ils proposent ça à la vente avec une juste rémunération du producteur et en évitant de gaspiller. C'est pas parce qu'une carotte est un peu de travers ou qu'une pomme de terre a la forme d'un cœur que ça n'est pas consommable. Donc il faut encourager tous ces gens qui se battent pour éviter ce gaspillage. Et là, tout le monde trouve son profit, les consommateurs et les producteurs. Hein, cet exemple des Yvelines, je crois que c'est une association qui s'appelle Quasimodo, parce que Quasimodo, le héros de Victor Hugo, était bossu, donc difforme, et donc les légumes et fruits un peu difformes sont ainsi portés à la consommation. Ailleurs, c'est des gens qui récupèrent ces fruits et légumes non vendables, soi-disant, et qui organisent des repas à bon marché pour des gens qui ont de modestes moyens financiers. Et puis, rappelez-vous, avant de jeter un aliment qui est chez vous, il y a deux dates possibles sur les aliments, l'épicerie, les conserves. Il y a la date limite de consommation, et ça, il est recommandé de ne pas dépasser cette date. C'est notamment sur les produits frais, parce qu'il y a des risques d'intoxication alimentaire. Mais il y a aussi la DLUO, c'est la date limite d'utilisation optimale. C'est une date qu'on peut très largement dépasser. Le seul risque, c'est que tel ou tel aliment ait perdu un petit peu de sa saveur et de son goût, mais ce n'est pas souvent le cas. Et j'ai utilisé à la maison du cacao dont la date limite d'utilisation optimale avait dépassé des mois et des mois, et ce cacao était toujours aussi bon. Et il n'y a aucun danger pour la santé. C'est vrai aussi sur les pâtes alimentaires. Les pâtes alimentaires se conservent, j'allais presque dire indéfiniment, à condition de ne pas les emmagasiner dans une cave humide, hein, et que ce soit au sec dans un placard. Donc, on se bat tous parce que ce gaspillage alimentaire, c'est aussi une atteinte à la nature, cette nature que nous mettons en valeur dans cette émission. Voilà pour l'humeur du jour. Alors, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à des informations sur la biodiversité. La LPO de ces derniers jours s'intéressait à la chouette chevêche. Et là, je crois qu'il faudra un jour qu'on fasse un dossier sur les chouettes et les hiboux, ces rapaces nocturnes qui ont longtemps été mal aimés des populations. Jadis, on clouait des chouettes sur le mur des granges, etc. Or, ce sont des animaux éminemment utiles, ne serait-ce que par le nombre de petits rongeurs qu'ils peuvent manger et qui évitent de mettre des produits dangereux pour la nature, afin de se débarrasser de ces souris, de ces petits rats et autres bestioles qui peuvent parfois nous embêter. Alors, on va passer ensuite au cri d'alarme de Philippe Grandcola, tel qu'il l'a jeté sur France Inter dans l'émission du 3 mai dernier, émission à réécouter sur le site de France Inter. Alors Philippe Grandcola, c'est un directeur de recherche au CNRS, le directeur adjoint scientifique national de CNRS, écologie et environnement, et il est l'auteur de Biodiversité dans la collection Fake or Not chez Tana Édition en novembre 2024. Voilà ce qu'il nous dit. Une des grandes composantes de notre monde vivant est en train de disparaître silencieusement, alerte Philippe Grandcola. Les insectes, on n'en voit plus, et finalement on ne s'en soucie pas plus que ça, regrette-t-il. Les insectes font partie de la sixième extinction. Grosso modo, 1 million d'espèces vont disparaître en 30 ans, nous rappelle-t-il. Et il est vrai que chez nous, je crois que c'est déjà 70% des insectes qui ont disparu ces 30 dernières années. Ce qui est énorme, parce que non seulement ce sont très souvent des animaux utiles, soit parce qu'ils pollinisent, soit parce qu'ils défendent nos cultures contre d'autres insectes, pensons aux coccinelles, ou même aux frelons européens qui mangent les petites bestioles qui vont pulluler dans nos arbres fruitiers, hein, les larves de pucerons notamment. Et puis, ça fait la place aux insectes invasifs. Hein. Si nos insectes disparaissent, s'il y en a qui arrivent et on n'arrive pas à s'en débarrasser, comme ce fameux frelon asiatique ou le moustique tigre, hein, qui peut être dangereux pour la santé. Alors, il faut absolument réviser nos façons de voir. Les pesticides sont notamment à l'origine de la disparition de nombreux insectes, explique Philippe Grandcola. Aujourd'hui en France, on a encore 20 000 km de haies qui disparaissent chaque année. Les zones humides continuent à être dégradées. On a aussi des problèmes avec l'agriculture industrielle. Les molécules des pesticides, nous dit-il, une fois mises dans le milieu naturel, ne disparaissent pas. Par exemple, les fameux néonicotinoïdes, les pesticides tueurs d'abeilles, sont 1000 fois plus toxiques que le DDT de nos grands-parents, qu'on a pourtant interdit, et ils existent toujours dans des parcelles cultivées où ils ont été épandus. Alors, qu'une loi qui réautorise certains néonicotinoïdes doit être examinée au Sénat à partir d'aujourd'hui, Philippe Grandcola dénonce un texte épouvantable, dit-il, à court terme. Bien entendu, on peut d'un côté se dire, quand on cultive des noisettes ou des betteraves à sucre, qu'on va pouvoir mettre des substances très toxiques a priori et supprimer tout problème pendant le cycle de culture pendant un moment. Et c'est vrai que c'est ces productions-là qui sont atteintes par des maladies et qu'on soigne avec les fameux néonicotinoïdes. Mais par la même occasion, on cause des dommages terribles à toutes les autres espèces qui sont nécessaires pour les autres types de cultures, pour les pollinisateurs. Et puis Philippe Grandcola alerte aussi sur les dangers de certaines substances pour les humains. Il faudrait réfléchir avant de voter n'importe quoi. Hein. Il faudrait encourager la recherche pour que les cultivateurs de noisettes et de betteraves n'aient pas de problème, sans pour autant empoisonner. Et quand vous faites des cultures maraîchères à proximité de ces lieux où on a répandu les néonicotinoïdes, eh bien, vous allez avoir des problèmes de récolte. Parce que plus de pollinisateurs, eh bien, les tomates, ça vient comment ? Il faut que les fleurs de tomates soient pollinisées pour qu'elles donnent des tomates. Les courgettes, c'est pareil. Hein. D'ailleurs, vous voyez quelquefois dans vos jardins des fleurs de courgettes qui ont avorté. Ben, elles n'ont pas été pollinisées. Et on en voit de plus en plus. Alors, à force de mettre des insecticides partout, on tue aussi les vers de terre. Et puis, on empoisonne la terre bien plus longtemps que le temps du traitement pour telle ou telle culture. Voilà l'alerte de Philippe Grandcola. On reviendra tout à l'heure sur deux de ses livres et sur le contenu de ses livres qui dépassent cette émission qui était uniquement sur les insectes. Je rappelle aussi que nos braves hirondelles sont des nettoyeurs d'insectes incomparables. Et heureusement, j'avais quelques craintes, mais là, dans la rue principale de Carlepont, je voyais encore ce matin les hirondelles pullulent, et c'est très bien comme ça. Et puis en plus, si vous en avez sur votre maison, une petite confidence, il paraît que ça porte bonheur. Donc, protéger les hirondelles. D'ailleurs, la loi les protège et punit sévèrement les gens qui s'attaquent aux hirondelles. Alors, dans ce domaine, ben justement, nourrir les abeilles et nourrir correctement les abeilles. Et j'ai été consulter le site des apiculteurs de Miel Direct, qui est tout à fait intéressant. Ils nous disent que les abeilles sont malmenées par l'usage de produits phytosanitaires. On vient de le dire avec notre Philippe Grand-Collat. Le changement climatique, la destruction de leur habitat, la raréfaction de leurs ressources alimentaires. 75% de notre nourriture dépend des pollinisateurs, dont les abeilles, mais aussi les bourdons, les petits hyménoptères, toutes sortes de bestioles plutôt sympathiques et qui ne vous font pas de mal si vous ne vous attaquez pas à elles. Nous, citoyens, nous dit le site de ces apiculteurs, que pouvons-nous faire à notre niveau pour aider à leur sauvegarde? Comment individuellement contribuer à la protection de la biodiversité? Et ces apiculteurs nous invitent à faire un geste tout simple. Invitons les abeilles à se régaler dans notre jardin, disent-ils, ou sur notre balcon. Plantons des fleurs mellifères, c'est-à-dire celles dont le nectar permet de produire du miel. Les fleurs mellifères sont source de protéines pour les insectes butineurs, abeilles, papillons. Elles leur permettent de satisfaire leurs besoins alimentaires. D'une part, le pollen sert à élever les larves. D'autre part, le nectar est à la base de la nourriture des adultes, éventuellement transformé en miel. Les causes de la disparition des abeilles sont nombreuses, mais effectivement, l'une d'elles est la raréfaction de leurs ressources alimentaires. Donc, des fleurs mellifères dans nos jardins, sur nos balcons, sur nos terrasses. En France, près de 8 foyers sur 10 possèdent une zone de jardinage, soit de pleine terre, soit en pot, ce qui représente plus d'un million d'hectares en tout. Ainsi, nous pouvons leur apporter pollen et nectar en quantité tout au long de l'année et améliorer de ce fait leur survie. Alors, il faut aussi éviter dans nos jardins l'usage des pesticides sur nos trottoirs. Hein. 3 herbes sur le trottoir, ça fait de mal à personne. Et puis un petit coup de binette et ça s'en va. Les enjeux humains, environnementaux, économiques sont énormes. Le choix des graines et des plants a son importance. On devrait utiliser d'ailleurs nos propres graines ou privilégier l'achat de fleurs bio ou éco-responsables. En effet, les produits phytosanitaires utilisés chez certains horticulteurs se retrouvent dans le nectar et le pollen. Ainsi, nous empoisonnerions à notre insu les insectes que nous souhaiterions sauver. Donc, il faut être attentif à ce qu'on met dans son jardin. Hein. Si on va acheter des fleurs complètement empestés par les produits phytosanitaires, on empoisonnera les abeilles. Alors, il faut tenir compte des périodes de floraison et donc varier dans la mesure du possible les fleurs qu'on va mettre au jardin. Qu'est-ce qu'il y a comme fleurs? Eh bien, une liste que nous donnent ces apiculteurs et qui n'est pas complète, la lavande, le thym. Alors, la lavande, en plus, dans ces périodes qui deviennent de plus en plus sèches, c'est une plante qu'on peut recommander chez nous. Ce n'est pas Edwige qui dira le contraire.
Oui.
Le thym, la coriandre, ben, ça sert aussi dans
on
notre cuisine.
Mm-hmm.
Les jacinthes, ça, c'est au début du printemps. Bon, les coquelicots, il n'y a qu'à les laisser pousser tout seul. La bourrache, on peut en faire aussi de la tisane. Le fenouil, ça se mange. La sauge, ça peut aussi agrémenter notre cuisine. Les capucines, les lys, les arômes, les glaïeuls, les cosmos, les œillets, les agapanthes, les dahlias. Et avec les dahlias, on arrive jusqu'au mois de septembre, voire octobre. Le lobélia, le bégonia, l'astère, le souci des champs, le zinnia, le mufflier, le lierre. Et ça, le lierre, je l'ai déjà dit, mais ça donne des fleurs à l'automne et à l'entrée de l'hiver. Et donc, ça continue de nourrir les abeilles. le myosotis, le tournesol, la marguerite, le géranium, le persenège, le trèfle, la moutarde, le pissenlit, le mélilot, la bruyère, etc., etc. Donc vous voyez que vous avez le choix, vous pouvez fleurir en fonction de vos goûts, si vous préférez telle ou telle fleur. Dans la liste qu'on vient de donner, il y en a qui fleurissent depuis le mois de janvier jusqu'au mois de novembre. Après, les abeilles vont s'endormir pour l'hiver. Donc, allez-y, plantez, semez, il est encore temps, et vous travaillerez pour la nature.
C'est bien, Xavier, parce que c'est vrai qu'on a le choix, là.
Tout à fait. Hein. Et encore, je n'ai pas tout lu dans la liste et elle n'est pas complète. Hein. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter quelques minutes avec le musicien Johann Stamitz, la symphonie en si bémol majeur, le premier mouvement. Et pour Edwige, c'est un allegro, c'est-à-dire un mouvement gai.
Stamitz. D'accord.
Voilà.
J'ai vu qu'il y avait de la flûte.
Mais c'était joyeux.
Oui, très très bien.
Alors, on va reprendre nos brèves sur le thème de la biodiversité. Et je vous recommande d'aller voir sur Internet le site crba.fr. Alors, c'est un site qui s'intéresse au patrimoine de la biodiversité, c'est-à-dire il va faire des études sur toute une série d'espèces végétales. par l'intermédiaire de conservatoires. Et ces conservatoires rassemblent et analysent des données documentaires et de terrain pour mutualiser les savoirs et les compétences afin de diffuser des variétés dans leur réseau de partenaires et dans les filières économiques locales. Ils étudient, protègent et valorisent un patrimoine biologique et culturel par la connaissance, l'expérimentation et la mise à disposition plus large des ressources génétiques et de leurs savoir-faire culturaux associés. Ils veulent réintroduire, conserver, caractériser et produire les espèces et variétés adaptées à notre territoire, permettre la diversité des pratiques et l'utilisation des usages ancestraux dans une dynamique d'innovation. Alors voilà une démarche intéressante parce que c'est conserver les acquis ancestraux et faire de l'innovation. Et alors, ils ont actuellement 5000 variétés de légumes, céréales et aromatiques en conservation. 400 variétés de tomates. Donc, pouvant s'adapter, celle-ci à tel territoire, celle-là à telle sécheresse, etc. 100 variétés de haricots, 100 variétés de blé tendre, 108 variétés d'arbres et d'arbustes fruitiers, répartis en 10 espèces et surtout des poiriers, des pêchers et des pommiers. Alors allez voir, c'est très intéressant, hein, parce que c'est le type de démarche que nous devons espérer multiplier aujourd'hui. Alors le site viginaturenunmot.fr, lui, est un programme de science participative ouvert à tous les curieux de nature, du débutant au plus expérimenté. Et il nous invite de rechercher en découvrant la biodiversité qui nous entoure. Il donne rendez-vous sur le terrain en ville comme à la campagne pour devenir un observateur de la biodiversité. Et ils nous disent « à vous de jouer ». Donc là, ça c'est plus ludique, mais ça permet aussi des démarches en faveur de cette biodiversité. L'hebdomadaire La Croix et l'Hebdo, à laquelle nous nous référons régulièrement, non pas à cause de son étiquette catholique, mais parce qu'il a une vocation écologique. Cette année, cet hebdo a créé une année spéciale « Parlons écologie » et donne tous les mois la parole à un expert. Et le dernier expert, c'était Valérie Masson-Delmotte, donc qui n'a rien à voir avec l'Église catholique, qui est une chercheuse en sciences du climat, qui a fait partie du GIEC, et elle en fait même peut-être encore partie, qui avait été invitée par le gouvernement à faire des conférences aux ministres pour les initier à la biodiversité et à la lutte contre le changement climatique. Donc c'est une des savantes, une des grosses pointures de... la situation actuelle. Elle a pris la mesure du rôle de l'océan dans le fonctionnement du climat, un sujet qui sera abordé lors de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui aura lieu à Nice début juin, une conférence présidée à la fois par la France et le Costa Rica, alors que le contexte géopolitique est difficile puisque les États-Unis viennent de décider d'aller exploiter les fonds marins sans aucun respect de la nature. Or, Masson-Delmotte nous dit « Savez-vous à quel point notre futur dépend de notre océan et à quel point la santé de l'océan dépend de nos actions ?» Climatologue, dit-elle, « J'ai été amené à prendre la mesure du rôle de l'océan dans le fonctionnement du climat et des changements inédits en cours. » En plus du changement climatique, l'océan subit des destructions d'habitats, des pollutions, des surexploitations qui sapent sa capacité à maintenir la vie marine et à réguler le climat. Chaque année, l'océan absorbe près de 90% de l'excès de chaleur dû à nos émissions de gaz à effet de serre. Mais cette accumulation de chaleur dans ses profondeurs est irréversible et contribue à l'accélération de la montée du niveau de la mer, à laquelle près d'un milliard de personnes sont exposées. Un milliard de gens qui vont peut-être être obligés de fuir les bords de mer. Mais on le sait même chez nous, un certain nombre de villas des bords de mer ont été évacuées et où il n'est plus question d'habiter. Hein. Aujourd'hui, les espèces marines se déplacent de près de 60 km, nous dit-elle, par décennie vers les pôles, car elles souffrent des canicules plus fréquentes et plus intenses. Et ces canicules favorisent le développement de maladies aquatiques. Bon, etc., etc. Vous pouvez vous reporter à cet article de La Croix, l'Hebdo. Mais ça nous alerte là aussi sur le problème posé par le matraquage de l'océan par les hommes. Alors, autre chose, et là on est dans l'actualité, le Festival des forêts autour de Compiègne va avoir lieu si mes souvenirs sont bons, 21 juin au 12 juillet 2025. Alors, ce Festival des forêts est unique en son genre parce qu'il réunit musique, nature et patrimoine. Le Festival des forêts renouvelle depuis 28 ans les formes du concert et invite le spectateur à vivre des expériences inédites dans 15 sites magnifiques des forêts de Compiègne et de l'Aigue, à une heure en voiture ou en train de Paris. La variété de sa programmation réunit des publics très divers. Festival innovant, nous disent-ils, il accorde une place de choix à la création, parie sur la pluridisciplinarité et invite des musiciens d'exception à se produire dans des mises en scène audacieuses. Unique en son genre, il tisse des liens inattendus entre nature et art. L'immersion dans la nature et la découverte guidée de la forêt invitent le public à aborder les œuvres avec une ouverture sensorielle inédite. Alors, il propose plusieurs formules, dont des formules qui associent la marche en forêt guidée par des spécialistes avant le concert, etc., etc. Il faut aller voir sur Internet le site Festival des forêts et vous trouverez sûrement des propositions de concerts, de marches, marches qui peuvent aller jusqu'à des randonnées de 12 km. Le bain de forêt musical d'une durée de 3 heures, qui prend la forme d'un parcours de 3 heures guidé par un médiateur et par un musicien, etc. Donc, Festival des forêts, ben, c'est un peu comme notre émission, on a de la musique classique et la nature. Je vous invite à vous renseigner d'un peu plus près en allant sur Internet. Alors, les conseils de la semaine maintenant. On ne nourrit plus les oiseaux, bien sûr. Hein. Nos mésanges, elles veulent plus de graines, elles veulent des insectes, tiens, comme par hasard. Mais on leur donne à boire, surtout s'il ne pleut pas. Ici, à Carlepont, on a eu une petite pluie samedi dernier sur l'heure du déjeuner, mais ça fait quand même un certain nombre de jours où on n'a pas beaucoup d'eau à Carlepont. Alors qu'ailleurs, ils sont sous des déluges de grêle et autres, c'est toujours le dérèglement climatique. Et donc, il faut donner à boire aux oiseaux, éventuellement mettre aussi des coupelles avec de la boue pour les hirondelles. Hein. C'est très important pour elles, quoique ça soit un peu tard, mais il y a encore des nids à restaurer et les hirondelles restaurent leurs nids avec de la boue. Fleurir son jardin de fleurs mellifères, on vous a dit pourquoi, c'est encore le moment. Et puis, on consomme local et de saison, on privilégie les circuits courts, bien entendu. Alors, pour revenir à Philippe Grandcola, il a écrit avec Claire Marc « Tout comprendre ou presque sur la biodiversité ». C'est au CNRS édition, ça coûte 18 € et ça vous informera davantage sur tous les aspects de la biodiversité, les services qu'elle nous rend, le rôle que jouent les micro-organismes dans la santé des animaux et des sols. C'est un livre qui, je crois, est même à mettre entre toutes les mains, qu'on peut confier à de grands enfants. Et puis, Philippe Grandcola a publié en 2023 « La puissance de la biodiversité », c'est toujours au CNRS édition. Donc, je vous renvoie à ces deux livres. Troisième livre sur le même sujet, Clara Delannoy, « Accueillir la biodiversité en ville », parce qu'on parle beaucoup campagne, mais il ne faut pas oublier que nous avons un grand nombre d'auditeurs qui habitent la ville, donc c'est pour eux qu'on parlait des balcons tout à l'heure. Et puis « Accueillir la biodiversité en ville » aux éditions alternative. C'est tout récent, mars 2025. Ça ne coûte que 14 euros. Ça doit être le prix d'un paquet de cigarettes. Enfin, à peu de choses près, je ne sais pas le prix des
Qu'est-ce
cigarettes.
Qu'est-ce que t'en sais?
Ben, j'en sais rien. Ouais, qu'on doit plus être très loin dans les cigarettes.
Ah oui.
Mais au plus, ça fait deux paquets, en tout
D'accord, oui.
Donc, la biodiversité, on nous l'a définie, c'est l'ensemble des êtres vivants et des écosystèmes dans lesquels ils évoluent, être humain inclus. Nous faisons partie de la biodiversité. Donc, je vous recommande ce livre. Au programme, il y a des conseils pour préparer les espaces. Il y a 20 projets, alors de DIY. Je me demandais ce que ça voulait dire. Ben, do it yourself, faites-le vous-même. Donc, c'est des projets pour nourrir les oiseaux, les insectes et les petits mammifères, mangeoires, jardinières, etc., nichoirs, abris à papillons, récupérateur d'eau de pluie, wicking bed, ça encore du jargon, ben c'est la culture sur lit à mèche. C'est une façon de cultiver des plantes en utilisant peu d'eau. Donc, et 20 fiches d'identité pour reconnaître et recenser les insectes, papillons, oiseaux. Donc, Claire Delannoy, accueillir la biodiversité en ville, édition alternative au pluriel. Bien sûr, les émissions de France Inter ont fait pendant quelques minutes, une petite infidélité à Radio Puisalène. Le dimanche à 13h23, CO2 Mon Amour. Et les carnets de campagne tous les jours à 12h30 avec Dorothée Barba. Et ben voilà, on a rempli l'heure, mine de rien. Et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission. La semaine prochaine, on rediffuse. Et maintenant, place à Edwige avec son petit jardin.
Merci Xavier.
Et on a, j'espère, ouvert à Edwige un certain nombre de pistes avec
oui,
tout ce qu'on a raconté aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Tu m'as vraiment mis sur la piste. Merci Xavier pour toutes ces informations. Après Alain Souchon, la balade de Jean, je reviens sur le petit jardin de Radio Puisalène. À tout de suite.
C'est gravier et dans l'air du soir. La chrysalide s'envole dans les fougères et les nénuphars.
Ça me prend les jours.